France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Pierre Jourde. J'ai lu La Marchande d'oubli cet été et j'ai adoré renouer comme ça avec la fiction, me plonger, m'enfoncer dans ces récits enchâssés, dans ces dédales de voix qui me menaient je ne savais où, peut-être vers la vérité, peut-être vers une plus grande fiction encore.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un cirque, la fin du 19e siècle, des clowns, des acrobates dont certains sont brisés, une foire chaotique et dérangeante, une baraque obscène où règne, visible et invisible, l'obscénité humaine. Pierre Jourde publie en cette rentrée littéraire une ample plongée dans une fratrie, capable entre autres choses pour fasciner le badaud, d'exposer une sœur endormie, léthargique, désormais soumise au regard, à la violence et au rapt des hommes. C'est ça le cirque, docteur, dit un des personnages. C'est pour ça que tout le monde aime ça sans savoir pourquoi. Par ces cérémonies, ce qui a lieu hors du temps se déroule aussi dans notre temps. Des plus abjectes bizarreries humaines à la lumière attestant la présence, des fictions façonnant désir et amour à une forme d'amour nu, déshabillé de l'illusion, le roman use de toutes ses libertés pour sonder les recoins les moins aimables de nos psychés. La Marchande d'oubli, c'est son titre, paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Gallimard et Pierre Jourde est notre invité. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Pierre Jourde.
Bonjour.
La Marchande d'oubli a paru aux éditions Gallimard, donc bienvenue dans le Book Club de France Culture. On est ravis de vous recevoir. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. Il est énormément question, on y viendra, dans votre livre, du désir acharné de fiction, un désir presque enragé pour la fiction, de la manière dont ça structure énormément des relations interpersonnelles dans votre livre, y compris des relations que chaque humain entretient avec un au-delà, pas toujours défini, en tout cas un peu plus grand que lui-même. Vous-même, vous êtes depuis toujours un amateur enragé de fiction ?
Oui, j'étais tout petit, drogué à la lecture. Je lisais n'importe quoi. Mes parents étaient désolés parce que je descendais pas dîner pour continuer ma lecture. Il y avait des armoires dans la maison de campagne remplies de n'importe quoi, notamment des historias que je dévorais, ce qui m'a permis de me faire une...
Vous nous rappelez ce que sont les historias ?
C'est une magazine d'histoire, mais la petite histoire, plutôt des anecdotes, des biographies, des choses comme ça. Donc ça m'a permis de me faire une réduction de barre, quoi. Mais bon.
Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous étiez un enfant drogué aux fictions ? Pourquoi utiliser ce mot-là si fort ?
Ah, parce que je pouvais pas m'en sortir, en fait. Mm. De toute façon, à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Donc je préférais, même à la récréation, je préfère lire plutôt que de jouer. C'était vraiment presque trop, mais bon.
Ça vous est resté ? Vous lisez encore énormément ?
J'essaie, mais on a tellement de choses à faire dans ce monde que c'est plus difficile. Quand on est enfant, on n'a que ça à faire.
Mais ça demeure quand même quelque chose d'important dans votre vie ou pas forcément ?
Ah oui, bien sûr.
Oui.
Ah bah oui, forcément. Mais il faut à la fois lire des livres d'aujourd'hui, des romans importants d'aujourd'hui.
Quand vous dites il faut, c'est que ça vous tient à cœur ?
Bien sûr,
ouais.
Bien sûr. Des livres scientifiques, des livres historiques, parce que c'est aussi important. Et tous les classiques que j'ai pas réussi à lire, là je complète ma connaissance de Bernanos, parce que j'ai pas tout lu. Voilà, vous voyez. Il y a plein de choses à faire.
Quand vous dites là, je complète ma connaissance de Bernanos, c'est-à-dire en ce moment, vous êtes
oui,
en train de
lire
Bernanos.
Oui. Oui.
Dans La Marchande d'oubli, on en parlera tout à l'heure, il y a des passages qui sont cités, entre autres, de William Shakespeare et en anglais dans le texte. Est-ce que c'est un auteur que vous avez lu ou est-ce que c'est simplement tout cet univers comme ça qui est déployé dans La Marchande d'oubli qui appelait Shakespeare ?
Ah non. Quand j'étais ado, mon parrain m'a offert toutes les œuvres de Shakespeare traduites par François-Victor Hugo, et j'ai dévoré ça. Et j'ai dévoré Macbeth, notamment, en me disant que ce qu'il disait sur la vie c'était m'a vraiment frappé.
Vous étiez fin d'adolescence, c'est ça?
Ouais, j'avais 13-14 ans.
Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait de la vie dans Macbeth, ce vieux Shakespeare?
Ah, vous savez, c'est la phrase célèbre...
Du bruit et la fureur?
Ouais. Raconté par un fou.
Raconté etc. par un fou, ouais.
Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est tellement angoissant. ça m'est resté sur le corps. Oui.
Mais c'était angoissant, mais donc percutant, disons qu'il y avait mot de vérité pour vous.
Eh oui, bien sûr. Mmh. Il y a des choses qu'on découvre à certain âge, on ne se rendait pas compte. En lisant Proust, j'ai compris que j'étais jaloux, que j'étais complètement jaloux à l'époque, en amour. Comme Swann, d'ailleurs, comprend à un moment qu'il est jaloux alors qu'il ne savait pas.
Mais c'est le détour par la lecture qui vous a ramené à vous-même.
Exactement. Mmh. C'est l'effet de la lecture de, normalement, de vous révéler à vous-même.
Et vous y allez pour ça? C'est quelque chose que vous cherchez sciemment ou pas nécessairement? De trouver un miroir ou un éclairage sur ce que vous êtes ou ce que vous traversez?
Comment dire? On n'est pas soi-même, normalement. Mm-hmm. Je dirais même qu'on n'est pas, pas encore né.
Mm-hmm. Oui, on n'est pas à soi-même dans les deux acceptions phonétiques du terme, c'est-à-dire une apostrophe et le nez.
Ouais, okay. Ouais. Et je pense que la littérature nous fait naître à nous-mêmes.
Mm. Chaque fois, un tout petit peu plus.
Ouais, nous permet de mûrir, de nous révéler, et surtout de découvrir toute la diversité qui est en nous. Mm-hmm. Nous sommes plusieurs. Comme disait la... nous sommes noirs de monde. Quel chanteur disait ça?
Je ne sais pas. Mais on a l'image.
C'est pas grave. Oui, oui. Et la littérature nous permet de pas rester un enfant coincé sur lui-même et son identité. Mm. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai inventé cet Alastair. Qui est pas
l'un
très
des
sympathique,
personnages de votre livre.
Oui. Mais qui est, en lui-même, est noir de monde, en mm-hmm. effet.
Y compris dans sa manière d'être nommé. Il a plusieurs apparences, plusieurs pélisses, plusieurs peaux, plusieurs noms, ouais, plusieurs façons de se présenter au monde. Et lui, il incarne en tant que tel ce personnage, le fait qu'on soit noir de monde, Pierre Jourde. Ouais. Donc vous citez... voilà, votre oncle c'est votre oncle hein, qui vous offre Shakespeare, donc fin de l'adolescence.
Mon parrain.
Votre parrain, pardon. Ouais. Votre découverte de Proust, qui vous tend un miroir d'homme jaloux en amour. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou autrices qui, comme ça, sur votre chemin, vous a fait naître à vous-même?
Henry James.
Mm-hmm. Découvert à quel âge?
Oh, un petit plus vieux, à 20 ans. Notamment La Bête dans la Jungle, qui était vraiment, pour moi...
Vous me dites ce dont il s'agit?
C'est un homme qui attend toute sa vie que la bête sorte de la jungle, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose dans sa vie. Il est en relation avec une femme extraordinaire, mais c'est pas ça. Et puis elle meurt... Et puis sur sa tombe, il comprend que il a raté sa vie à force d'attendre la bête.
C'est terrible.
C'est terrible, mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent ça.
En attendant la bête.
Oui. On se raconte des histoires pour ne pas vivre. Et l'imagination nous permet justement de rétablir la bonne histoire, je crois.
Mais à 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez comprendre d'un homme qui attend la bête pour ne pas vivre et qui réalise qu'il n'a pas vécu sur la tombe de la femme aimée? C'est quand même une petite gymnastique, je veux dire, faut quand même avoir, comme on dit, un tout petit peu de la bouteille Pierre Jourde pour saisir ça, non? Vous le comprenez à 20 ans?
Je l'ai compris par anticipation. J'étais un petit con à 20 ans.
Classicos.
Ouais.
Classique, non?
Ouais, ouais.
C'est banal.
Oui, tout à fait. Mais la lecture et les femmes m'ont permis d'être un peu moins con. Mmh. Enfin, j'espère.
Chemin faisant.
Chemin faisant, c'est ça.
Donc Henry James, et après La Bête dans la Jungle, est-ce que vous allez vers d'autres textes d'Henry James? Ou est-ce que c'est vraiment cela, ce livre-là qui fait rencontre pour vous ?
Ah non, mais James, on pourrait en donner plein de noms. Les papiers d'Asperne, il y en a plein.
Et à chaque fois, dans l'idée qu'il parvient par sa fiction à vous donner... alors les clés, c'est toujours un peu... éculer cette image-là, mais en tout cas quelque chose qui vous permet de déverrouiller un petit niveau dans l'existence, quoi.
Ah oui, à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, c'est l'effet de la littérature de parvenir à nous faire voir les choses. À un moment, Proust dit que après Renoir, on voyait partout des Renoirs dans la rue. Vous voyez, c'est un filtre, en fait, pour voir.
Mais d'ailleurs, il me semble que dans La Marchande d'oubli, il est énormément question de voir, quoi, hein, de payer pour voir jusqu'à des conditions de l'invisible, jusqu'à des conditions du visible. C'est quelque chose qui travaille beaucoup le roman que vous publiez en cette rentrée littéraire. Si on avance un petit peu dans l'âge, Pierre Jourde, et qu'on quitte la vingtaine, est-ce qu'il y a des livres que vous auriez rencontrés plus tard et qui auraient eu aussi cet effet-là?
Alors, il y a eu Huysmans. Huysmans, surtout, enfin, pas tellement son monde, son imaginaire, quoique, mais son style. Son style, qui est basé sur des adjectifs, des mots très corporels. Il mêle la cuisine et la religion, par exemple. Et ça, c'est une leçon de littérature. Ça donne beaucoup d'intensité à sa démarche. Et surtout, parce que le style n'est pas un ornement. Le style, c'est la pensée même. Et sa pensée, c'est justement passer au spirituel, à l'au-delà pour lui, parce qu'il était catholique, non pas contre le corps, mais avec le corps. C'est-à-dire au bout du corps, on passe de l'autre côté. C'est justement d'ailleurs pourquoi il a été catholique, parce que le Christ, c'est exactement ça. Le sacrifice du corps nous permet de passer à l'au-delà.
Ça encore, c'est un sacré motif de votre roman La Marchande d'oubli, Pierre Jourde.
C'est vrai.
Il y a quelque chose, vous avez dit, dans Huysmans, il y a une leçon de littérature. À partir de quand, vous-même écrivant, Pierre Jourde, vous vous êtes mis à lire en écrivain, à lire peut-être à la recherche consciente ou inconsciente de leçons de littérature? Et si c'est le cas, est-ce que vous lisez, vous dites, je lis Huysmans, je prends comme ça conscience que le style littéraire est une forme que prend la pensée et que c'est une leçon de littérature. Est-ce que le fait que vous écriviez, je reprécise ma question, a fait de vous un lecteur à la recherche de leçons de littérature?
Ah non, pas du tout. Non, c'est plutôt le contraire d'ailleurs. Il faut s'émanciper un peu de toutes les lectures qui sont lourdes, qui pèsent sur vous. J'ai aussi très très influencé par Borges, la métaphysique fiction. C'est-à-dire il part d'une hypothèse métaphysique et à partir de ça il écrit une petite nouvelle. C'était vraiment exceptionnel. Non, je crois que j'ai trouvé mon écriture à force de travailler, on s'émancipe en fait. On trouve son corps d'écriture en fait. C'est à la fois intellectuel et corporel, j'ai l'impression.
Mais vous, écrivant, vous n'avez pas moins lu. L'émancipation n'est pas passée par le fait de réduire vos lectures.
Non. Non. Simplement, si j'écrivais pas tant. Parce que j'ai quand même publié au moins 50 livres et, je sais pas, 200 articles.
Voilà, c'est une bibliographie conséquente.
J'aurais lu beaucoup plus, mais bon, on peut pas tout faire.
Je me permets une question. Au début, vous avez rapproché la manière dont la littérature vous avait petit à petit éloigné du petit con que vous étiez à 20 ans, de même que les femmes l'ont fait.
Oui.
Vous ne citez que des hommes. Est-ce qu'il y a une autrice, par exemple, que vous pourriez citer et qui a été importante, une femme autrice que vous auriez lue, Pierre Jourde, et qui aurait joué ce même rôle pour vous?
Oui, Sarraute.
Avec quel texte ?
Tous ces textes, notamment Les Fruits d'Or, parce que ça rôte. Ce qui est original dans ce qu'elle fait, c'est reprendre des discours et des discours autour de quelque chose. Sur Les Fruits d'Or, c'est un roman. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que tous mes livres sont des discours. Nous sommes constitués de discours. C'est ce qu'elle a compris et ce qu'elle met en avant. Ça m'a un peu pas bouleversé, mais ça m'a mis sur quelque chose. Oui.
On va parler de votre livre « À vous, la marchande d'oubli Pierre Jourde » paru aux éditions Gallimard, juste après ça.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un roman qui pue comme la vie aujourd'hui dans votre Book Club, une rhapsodie composée de fragments déchirés et recousus. Il suffit parfois d'écouter parler certains des personnages de votre nouveau livre, Pierre Jourde, pour être renseigné sur votre projet d'écriture. Avec La Marchande d'oubli, certains cycles archaïques poursuivent leurs répétitions, d'autres tentent d'enrayer le retour du même et d'ôter la vieille pélisse des fictions qui nous tiennent ou nous infectent. À la fin du 19e siècle, un cirque, des clowns, de la violence, des fantasmes de violence et une forme d'horizon d'amour. Mais surtout, un enchâssement de voix et de récits, ça s'appelle La Marchande d'oubli et ça a paru aux éditions Gallimard. Je parle de cette fin du 19e siècle parce que j'ai bien lu la documentation autour de votre livre, Pierre Jourde. Je vous avoue que je l'ai lu hors du temps. Et c'est d'ailleurs une des propositions que font souvent les personnages, d'imaginer que ce qui se passe dans ce livre ou ce qui se passe entre tout le monde, là, c'est un cérémoniel qui a lieu dans le temps, mais aussi hors du temps. Alors commençons par dire que ça peut être daté, puis après on verra pourquoi c'est hors du temps. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette marchande d'oubli avec la fin du 19e et cet univers des foires et des cirques ?
Ben, je crois qu'aujourd'hui, on n'expose plus ce qu'on appelle les monstres.
Bien sûr. Ça, en tout cas, plus de cette manière-là.
C'est pas possible, en fait. Et puis, il y a eu une époque de mode autour des clowns anglais. Il y en avait partout en France. C'était une invasion de clowns anglais, en Allemagne aussi. Et ça renversait un peu notre tradition du mime, du Pierrot enfariné, qui était très souple, assez gentil en fait, alors que ces acrobates clowns anglais étaient extrêmement agressifs, extrêmement funèbres, et ça m'a...
Ils se produisaient où ?
Alors, à l'époque, c'était plutôt dans des cirques en dur, et notamment à Paris, aux Folies Bergères. Mmh. Mais partout en Amérique, mais dans des théâtres. Le cirque avec des caravanes, etc. Et c'est venu un petit peu plus tard, à partir des années 1890.
Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans le début de l'écriture ou le commencement de ce projet romanesque qui a à voir avec votre intérêt pour cet univers-là, des cirques, des foires, des clowns du 19e ?
D'abord, je crois que c'est en soi, c'est absolument fascinant. Mmh. Ensuite, pour le contexte, j'ai beaucoup travaillé sur Huysmans. J'ai fait des éditions savantes, et notamment la Pléiade sur Huysmans. Et donc, il a écrit des textes sur les Hanlonlys, hein, une troupe de clowns anglais, très inquiétant. Et des spectacles à l'époque, à grand spectacle, avec des explosions, une pluie de chatons, enfin des trucs incroyables qu'on n'arriverait même pas aujourd'hui à faire au cirque. Je me suis intéressé à ça. Beaucoup d'écrivains de l'époque, sous ses influences, ont écrit des spectacles de mime, et voilà. Et donc je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à en tirer.
Et donc au départ, vous avancez...
Puis c'était personnel. Mm. C'était personnel. Tout enfant, j'avais 3 ans, bon, j'avais une toute petite chambre, et en face de mon lit, il y avait un placard. Et la nuit, je voyais la porte du placard s'entrouvrir, et sortaient des clowns. J'étais terrifié.
Il y a de quoi ?
C'était une sorte d'hallucination. Vous savez bien que le clown est devenu un personnage familier des films d'horreur, comme la marionnette.
Et pourquoi ? Parce qu'à la fin d'ailleurs,
comme le mannequin.
Ouais, à la fin d'ailleurs de votre livre, il y a l'idée comme ça d'une personne qui ne serait qu'une figurine en bois agie par les verbes des autres, qui voilà. Renvoyait presque à une qualité pantomime, objectivable. Ouais. Et ça rejoindrait ça d'une certaine manière.
Oui. Et pourquoi ça fait peur ?
Alors pourquoi ça fait peur ?
Oui.
Non, mais c'est vrai.
On peut se poser la question. Mmh. Parce que je crois que nous sommes normalement assez tranquilles sur ce qui est humain et ce qui n'est pas humain.
Mmh. C'est vite dit, moi, je pense.
Mais... Bah, je pense que vous êtes convaincue que vous êtes...
Que je suis humaine.
Une humaine.
Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant. Je suis assez convaincue que vous êtes humain.
Oui. Mmh. Oui, et bien justement, je crois que les clowns et aussi les mannequins posent la question des limites de l'humain. Et les monstres aussi, justement. Qu'est-ce qui est humain ? Qu'est-ce qui est bête ? Qu'est-ce qui est Dieu ? Les clowns, on ne sait jamais de quoi ils partent. Quelle est leur pulsion ? Pourquoi ils agissent ? C'est toujours sans cause.
Oui, il y a une gratuité un peu, quoi.
Une gratuité, donc on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire. Ce qui est parfaitement effrayant.
Donc ça, ce serait, on va dire, quelque chose qui se réfère à un imaginaire daté. Vous venez de le dire, Pierre Jourde, il est identifié, quoi.
Daté et en même temps archaïque.
Voilà, donc c'est la deuxième partie de ma question, c'est que pour moi, il y a à la fois quelque chose qu'on peut en effet, comme vous voulez dire, placer dans un décor qui serait cette fin du 19e, et puis donner les exemples que vous venez de donner. Et puis ensuite, il y a toute la possibilité de lire votre roman La Marchande d'oubli hors temps. Hors du temps, dans des structures fort anciennes, des choses qui nous fondraient d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'est une lecture est-ce que vous êtes conscient d'avancer sur ces deux pieds-là ?
Ah ben, c'est extrêmement conscient, c'est extrêmement volontaire. Ce que j'appelle archaïque, c'est notamment les mythes grecs, mais enfin, pas seulement, qui, justement, posent à l'humain ses limites. Mmh. Qu'est-ce qui est humain ? Qu'est-ce qui n'est pas humain ? Les dieux sont toujours entre la divinité, l'humain, la bête, Silène par exemple, qui apparaît dans le livre. Et ça, c'est le rôle aussi de la littérature de déshabiller les personnages, de nous déshabiller de ce que nous pensons être les limites normales, etc. Nous remettre en cause, en fait, tout au fond. Mmh.
Est-ce que vous vous souvenez dans quel état vous commencez La Marchande d'oubli?
Dans quel état?
Ouais. Bah, vous voyez, il y a une vibration au début d'un texte.
Oui, oui.
C'est intéressant de se demander. Tout à l'heure, vous avez vu le pavé, comme, donc, je ne l'ai pas dit, hein, mais donc, il fait en effet ce livre 650 pages. Vous me dites, ah, je suis effrayée par ce pavé. C'est un projet conséquent, donc il y a une vibration au début de ce projet-là, quand même, Pierre Jourde.
Oui, oui, oui. Cela dit, j'ai pas. Le début ne correspond pas à ce que j'ai écrit au début.
Oui.
Mais c'est pas.
Peu importe, oui.
C'est pas le problème.
Ou avec. Peut-être si dans quel état ça vous paraît pas une bonne question, quelle intuition, quelle.
Oui, oui. Je pars souvent en écrivant d'une. C'est bizarre, hein, mais d'une vision. Mm-hmm. Une vision. Alors, je vous ai parlé des clowns, etc. Mais j'ai vu il y a très longtemps un film qui s'appelait Some Call It Loving de Harris, oui. Et l'autre titre, c'est justement La Belle Endormie. Et j'en ai gardé, c'était de 1973. Mmh. J'en ai gardé un souvenir un peu confus, mais il y a une jeune fille exposée dans le cirque, et ma vision, c'était justement la belle endormie avec une lumière blanche sur son visage. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je suis fasciné par ça? Mmh. Et j'ai voulu creuser cette image, comme je le fais toujours pour les romans.
On va écouter comment ce roman commence.
Mais ce soir-là, dans l'obscurité de la chambre, tandis que nous reposions côte à côte sur le vaste lit comme des gisants, et que je ne percevais de lui que son souffle et sa voix, Charles m'a confié autre chose, qui sans doute ne pouvait se dire que dans le noir. Durant le voyage aller dans le train, il avait fait une rencontre, une de ces rencontres qu'on préférait éviter. Celle, en effet, que nous redoutions depuis longtemps, sans savoir quelle forme elle prendrait. Une sorte d'ombre géante, couverte d'oripeaux, lui avait parlé, interminablement. Et il fallait qu'il me rapporte ses mots. Qui s'était, m'a-t-il dit, gravé en lui avec une précision étrange, en dépit de la longueur de cette espèce de confession, celle à peu près d'un roman. La phrase rituelle des marchands d'oubli, « Oubli, oubli, demandez l'oubli », revenait à intervalles réguliers dans l'interminable discours de l'ombre, et la voix de celle-ci, qui tentait maladroitement d'en imiter les accents enfantins, n'en produisait qu'une parodie grinçante. Dans l'obscurité, où je pouvais m'imaginer, disait Alia, être dans le compartiment du train, en compagnie de Charles et de son compagnon, la voix de Charles imitant celle de l'ombre, articulait une parodie de parodie. Oubli, oubli, demandez l'oubli.
On est au début de votre roman, Pierre Jourde, La Marchande d'oubli. Charles est un médecin aliéniste qui a rapté Talia, une sœur d'une Adelphie, de la famille des Elkins, des clowns acrobates. Et c'est Talia qui nous parle en premier et qui nous raconte ce que Charles lui a un jour raconté. Dans ce petit paragraphe, je reprenais des notes en l'écoutant, vous faites aussi, et vous le faites très souvent dans ce roman, des propositions, je sais pas, presque théoriques sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, quelque chose qui ne pourrait se dire que dans le noir. une rencontre faite aussi dans le noir. Rapporter les mots de la confession qui aurait la taille d'un roman, la parodie d'une parodie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment presque la définition de ce qu'on va ensuite traverser pendant 650 pages. Mais peut-être pour que vous nous parliez, Pierre Jour, de la structure de ce roman-là, qui est un peu pareil à ces structures-là aussi très anciennes de chez Razad, qui raconte une histoire, qui raconte une histoire. Toutes ces choses qui sont relancées de fiction en fiction. Est-ce que vous voulez bien nous dévoiler là, quelque chose de l'échafaudage du texte?
Vous avez au début parlé de rhapsodie. Je crois que c'est un bon mot.
C'est le vôtre, hein.
Ah oui, d'accord.
Oh ouais. C'est emprunté à un de vos personnages.
Et puis le personnage principal, Alastair, porte une pelisse. Donc
c'est l'un des frères.
L'un des frères Elkin porte une pelisse qui raconte toute son histoire d'assassin.
Comme le bouclier d'Achille raconte toute l'histoire d'Achille.
Exactement. Et il fait de morceaux de peau, en fait, cousus entre eux. De sorte que c'est, je m'en suis aperçu après, ouais, c'est l'image du roman, en fait.
Oui, mais c'est pareil. Vous parliez de Proust qui imagine coudre une robe, pareil à une cathédrale. Finalement, l'espèce de cap, manteau, pelisse étrange comme ça, qui est comme rapiécé. Ce sont les fictions dont sont faites ce personnage-là, qui par ailleurs porte plein de noms. Voilà. On l'a dit. Donc, il y a une fratrie. Peut-être on dit quelques mots de cette fratrie et de comment il se renvoie la balle pour dire l'histoire, Pierre Jourde.
Oui. Alors justement. L'idée, au départ, et l'idée finale, c'était que c'est un cercle de discours. C'est-à-dire que quelqu'un, A raconte à B, qui raconte à C, qui raconte à A, finalement. Donc c'est un cercle de discours, de sorte que on ne trouve pas la racine.
Ni le réel.
Ni le réel.
Qui est une possibilité parmi les autres.
Voilà, exactement. Je voulais montrer, dans la structure du roman, à quel point nous sommes faits de discours. C'est-à-dire que, quand je vais partir, je vais me rappeler de ce que vous m'avez dit, je vais répondre intérieurement à ce que vous m'avez dit, je vais me répondre à ce que j'ai répondu, etc. Et donc là, en fait, ce que nous appelons la réalité est souvent constituée de discours.
Et donc se succèdent des voix, là on a entendu Talia, mais c'est Talia qui parle, mais pour dire une histoire que Charles lui a racontée, une histoire que l'on peut entendre uniquement dans le noir, donc c'est bien aussi montrer à chaque fois que nos discours sont enchâssés et que, comme vous le dites Pierre Jourde, on a quitté éventuellement la vraie rencontre qui aurait eu lieu, la vraie rencontre qu'aurait fait Charles dans le train avec cette ombre menaçante.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est comme le thème de l'amour dans ce livre.
Omniprésent.
Il faut aller vers la réalité à travers les discours, éliminer les discours faux, aller vers la réalité, c'est la bonne fiction. Et de même, Charles et Talia cherchent l'amour à travers des fictions qui ne fonctionnent pas parce qu'à chaque fois, ils s'aperçoivent, ils jouent un rôle en se disant « Ah, ça serait l'amour. » Eh ben non, ça marche pas. On fait une autre fiction et une autre fiction et une autre fiction. Et c'est aussi une sorte de... le rôle de la littérature de nous faire aller à la réalité après avoir éliminé toutes les fictions qui sont fausses.
Et c'est vraiment le trajet de Charles et Talia. Donc Charles, qui est ce médecin aliéniste, qui enlève, là aussi c'est un motif important, cette femme qu'on enlève après les femmes qu'on possède, les femmes qu'on tue, les femmes qu'on sacrifie, les femmes qu'on regarde, les femmes qu'on endort, les femmes qu'on viole. Enfin, il y en a toute une série. Bah oui, mais c'est affreux. Bah, on traverse toutes ces horreurs dans la, et on peut dire d'une certaine manière que vous ne nous épargnez pas, Pierre Jourde, ou alors peut-être vous ne vous épargnez pas, vous n'épargnez en tout cas pas la traversée de cette horreur. Une fois qu'ils sont ensemble, Talia et Charles, ils font cette traversée. C'est une véritable odyssée que de traverser toutes les, je sais pas comment on pourrait dire, les pelures d'oignons que serait leur amour avant d'arriver à quelque chose, malheureusement c'est trop près de la mort, qui serait un amour un peu dénudé, quoi, dénudé des illusions.
Exactement, oui, oui. Ils y arrivent.
Sinon. Proche de la mort, non, quand même.
Non, quand ils retournent à Paris, il y a une sorte de nuit d'extase où ils découvrent quelque chose. Mais nous sommes à la fin du 19e siècle et Charles est plein d'illusions sur l'amour. Talia est beaucoup plus critique. C'est-à-dire c'est elle qui corrige les fictions, qui intervient sur les fictions en disant « ça marche pas ». Et de toute façon, ça ne peut pas marcher parce que les femmes, nous ne sommes pas des sujets à la fin du 19e siècle. Nous ne sommes pas des sujets en plein...
possession de nous-mêmes.
Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas vraiment un sujet ? Elle pense que ce n'est pas possible.
On va écouter Alice, auditrice du Book Club. Elle vous a lu cet été. Et elle aussi, elle a été ramenée à des terreurs d'enfants.
Bonjour le Book Club. Bonjour Pierre Jourde. J'ai lu La Marchande d'oubli cet été. Au milieu d'une rentrée littéraire saturée par les récits de soi. Et j'ai adoré renouer comme ça avec la fiction. En me déboussolant comme ça, vous m'avez fait revivre les sensations propres aux peurs de l'enfance, la peur du noir par exemple, de la folie, de la mort bien sûr. Et vous citez en exergue de votre texte les clowns anglais Pinot. Nous voulons seulement donner aux spectateurs l'impression de la terreur violente et de la folie. Et donc ma question, c'était si vous aussi, Pierre Jourde, c'était cette impression que vous aviez voulu transmettre à votre lecteur. Merci beaucoup pour votre réponse et merci pour ce très grand roman.
Merci Alice pour cette lecture et pour cette question. Pierre Jourde, est-ce que vous aussi, il s'agit comme les clowns de transmettre seulement l'impression de la terreur et de la violence ?
J'aime bien faire peur. Parce que la peur est l'émotion, je dirais, la plus pure. La peur vous débarrasse de tous vos oripeaux quand vous avez peur. Vous êtes à nu. Et ça, c'est très impressionnant. Oui. D'ailleurs, j'ai écrit des livres, notamment Festin secret, pour me faire peur à moi-même. Et ça aussi, d'ailleurs. Je l'ai écrit avec mes peurs. Mais j'ai aussi fait rire, ça m'est arrivé souvent.
Alice...
D'ailleurs, les clowns, c'est justement la rencontre entre la peur et le rire.
Et le plaisir de se faire peur. Alice dit que ça l'a comme rebranché à des terreurs d'enfant. Peur du noir, vous évoquiez aussi Pierre Jourde comme une des visions d'origine, cette porte du placard comme ça qui s'ouvre, c'est effrayant en effet dans la nuit, et qui s'ouvre sur une figure de clown. Il y a quelque chose, on parlait de l'archaïque, au sens où quelque chose se relierait à des formes de récits très anciennes qui nous modèlent, qui nous structurent, mais il y a aussi un archaïque très ancien, on va dire du côté de la toute petite enfance, par exemple, à un moment donné, vous arrivez à cette phrase qui est d'aller vers l'abandon dont nous sommes tous faits avec une langue indirecte. Réussir à dire l'abandon dont nous sommes tous faits. Il me semble que vous touchez des angoisses humaines les plus archaïques.
C'est exactement ça, oui. Je parle du sentiment de l'abandon qui me semble être plus profond même que le deuil, qui peut être terrible et j'en sais quelque chose. J'ai l'impression que nous sommes toujours, dès l'origine, abandonnés. Et on passe sa vie à réparer cet abandon.
Mais ce qui est impressionnant dans la formule à laquelle vous arrivez, c'est pas l'idée que nous avons tous vécu l'abandon, c'est l'abandon dont nous sommes tous faits. Et réussir à dire, et vous le dites par une langue indirecte, donc vous en revenez au fait qu'on est composé de discours, Pierre Jourde, ces espèces de matières presque dont nous serions faits.
Exactement, oui, oui. Et d'ailleurs, je viens de lire dans Bernanos que nous sommes faits profondément, comme la Vierge Marie, de tristesse. Et je l'ai toujours pensé, en fait, tout petit.
C'est-à-dire ?
Une espèce de tristesse devant le monde, qui correspond au sentiment d'abandon, parce que, alors c'est pas seulement la naissance, effectivement.
Qui en est un des premiers.
Ouais, ouais, mais nous sommes faits d'abandon parce que nous sommes au monde. C'est exactement ça. Nous sommes nus face au monde. Et à chaque fois, nous construisons des vêtements, des maisons, des murailles pour ne pas avoir ce sentiment.
Dans le meilleur des cas, j'ai envie de vous dire, Pierre Jourde, parce qu'une autre réponse à cette tristesse et à cet abandon fondamental dont nous serions frais serait la violence, dont on rencontre bien des illustrations dans La Marchande.
Oui, ça oui.
Dans La Marchande d'oubli, oui. On va y venir dans un instant.
Justement, c'est la dernière parole du Christ.
J'allais y venir au Christ.
qui rend compte de l'abandon métaphysique, pourquoi m'avez-vous abandonné ?
C'est quand même très 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 important la manière dont la figure du Christ et son sacrifice et la lumière qui émane de son absence, Pierre Jourde, et de sa disparition, en tout cas de la disparition de son corps. Comment, alors je vous disais avant de commencer l'émission que je pense n'avoir pas eu assez de temps pour vivre avec ce texte après l'avoir lu, mais on va faire avec avec ce que j'ai là. Comment est-ce que cette figure-là, et pas tant d'un point de vue religieux, si j'ai bien compris, mais plus d'un point de vue presque de l'expérience, comment est-ce qu'elle peut éclairer le roman que vous avez produit ? Je ne sais pas si ma question, elle est claire, Max.
Ah, elle est claire, okay.
mais elle est pas facile.
La vache, elle est difficile.
Mais
elle,
on est d'accord qu'elle est quand même fondamentale, non ? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression à un moment donné, je me suis dit, mais ça revient tellement l'idée du sacrifice du corps, l'idée de la manifestation de la présence, l'idée de la lumière pour signifier l'absence.
Oui, parce que effectivement, Alastair, qui est un
des frères, je le rappelle.
Alors, un des frères et le principal personnage qui est un assassin, un violeur.
Tout, un assassin, un violeur, un raciste, un misogyne, c'est le pire.
Oui, mais il se prend pour le Christ, d'une certaine façon. Sa mission est un peu la même que le Christ, c'est-à-dire le sacrifice sur des femmes, notamment.
Leur
permet de passer à une autre dimension. Il en est certain.
Nothing else, on dit rien d'autre. Non, mais on va passer. non, mais parce que c'est
sortir de leur vie pas intéressante, quotidienne ou absolument désolante pour les prostituées, tout à coup découvrir autre chose avec le sacrifice.
Alors on va lire un nouvel extrait, La Marchande d'oubli, Pierre Jourde, pour aller un peu plus avant. Et là peut-être on descend dans la cabane des horreurs, quoi, à l'endroit où ça grouille. non mais parce que vous y allez, pardon.
Excellent verbe.
Bah oui, c'est vrai. Enfin vous allez dans cet endroit-là, Pierre Jourde. Alors on écoute un extrait.
Il m'a raconté, dans le noir de la petite chambre, tandis que le vent et la pluie faisaient le siège de l'hôtel, comment un soir, m'ayant déshabillé pour faire ma toilette, il s'était senti plus profondément que d'habitude, comme opprimé par mon corps, écrasé par sa présence. La blancheur parfaite de ma peau rendait ma nudité absolue. Je rayonnais de nudité, m'a-t-il dit. Nul être, sans doute, n'avait jamais été aussi nu. mes cheveux roux étalés sur l'oreiller, la touffe rousse qui jaillissait d'entre mes cuisses lui avait paru les flammes engendrées par cette nudité en ignition. Il en avait conçu une sorte de désespoir. Il ne pouvait que rester en dehors, jamais la beauté ne lui serait donnée dans sa plénitude. Il ne lui restait qu'une solution pour calmer sa souffrance, profaner la déesse, en faire une simple mortelle. La parfaite pureté de cette nudité exigeait la profanation. C'est par la profanation, se disait-il, et les discours à ce moment affluaient, se bousculaient dans sa tête, que la beauté existe. C'est la blessure qu'on lui inflige qui l'enlève du lieu inaccessible où elle se tient, il lui donne toute sa réalité. Je ne t'avais soustraite au vulgaire sacrilège des médecins et des spectateurs, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, que pour commettre un sacrilège véritable. Le viol lui apparaissait comme une nécessité. Et puis après tout, il était le prince charmant. Le viol, qui sait, était ce qu'il fallait faire pour réveiller la belle au bois dormant. Et pourtant, il n'avait pu se résoudre à le commettre. Il pressentait vaguement ce qu'il y aurait après, ces terres calcinées qu'il aurait à traverser, le dégoût de tout, le désir vécu comme un fardeau honteux.
Un extrait de votre texte « La marchande d'oubli », Pierre Jourde. Quelque chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais c'est combien les discours et les paroles de cette fratrie de clowns et les paroles de Talia réfléchissent aussi beaucoup à la beauté, quoi, et à la possibilité de l'atteindre ou pas.
Là, c'est Charles qui parle.
Oui, oui, oui. Non, mais je disais par ailleurs, oui, oui. Par ailleurs, oui. Dans le livre, il est beaucoup question de comment on atteint la beauté. Comment on la possède, comment on peut la voir, comment on peut payer pour voir. Bon. Dans ce passage-là, on entend ce Charles qui dit que cette femme lui est tellement étrangère, tellement inaccessible, qu'il n'a d'autre solution que lui aussi de songer au sacrifice, à la violence et au viol, qu'il ne connaît pas, qu'il ne commet pas, mais... Et finalement, y penser, c'est comme le commettre, dit-il un tout petit peu plus loin, Pierre Jourde. Comment on va là-dessus, voilà, en 2025, où évidemment, cette question est centrale, du viol, des violences sexuelles, de l'objectivation du corps des femmes, des enfants, dont il est aussi question dans la marche.
On est en plein dedans, oui. Alors, une chose d'abord... La beauté ne concerne pas que les femmes.
Non.
J'ai une expérience de la beauté, pas simplement une lumière sur un pré dans l'Auvergne. Et pour moi, la beauté n'est pas quelque chose de joli à regarder de l'extérieur. La beauté me violente. Elle me remet en cause. Qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est tellement fort. Elle me demande quelque chose. Elle exige de moi quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est d'écrire, pour répondre.
Oui, mais est-ce que, par exemple, parce que c'est une des choses qui travaille...
Attendez,
oui, pardon.
Attendez. J'y arrive.
Pardon.
Donc, on peut éprouver la même chose devant la beauté révélée d'une femme. La misogynie m'a toujours désolé dans la littérature, et notamment au XIXe siècle, où elle est vraiment partout. Huysmans, c'est un misogyne acharné, Baudelaire aussi, et pour moi, ça me semble une... Pas seulement du mal, mais une faiblesse intellectuelle.
Ouais, je vous fais pas dire, ouais.
Une faiblesse intellectuelle. Je me suis demandé, mais pourquoi on violente... On viole des femmes.
Et des enfants.
Oui. Mais en l'occurrence, c'est une femme. Par le désir de possession. Ce qui est l'impulsion de départ, mais le mauvais chemin, je pense. Et donc, Thalia, justement, discute avec Charles pour lui dire que c'est quand même bizarre, c'est ce désir des hommes. Il vient d'où? De quelle profondeur pour posséder la beauté en violant, en la violentant? Sartre a un peu répondu à ça en disant que détruire, c'est une forme de possession. Mmh. C'est une facilité, mais c'est une forme de possession.
Bah, le colonialisme en est une des expressions, par exemple.
Et Thalia lui dit, je pense que les femmes n'ont pas du tout le même fonctionnement par rapport à vous. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Mais elle dit à Charles que la qualité qu'il a, c'est d'être conscient de ce qu'il désire et de l'exprimer, de sorte qu'il s'en débarrasse d'une certaine façon en l'avouant à Thalia. Ça, c'est le cas de Charles, mais Alastair, lui, va beaucoup plus loin.
Quand vous dites, Pierre Jourde, je me suis demandé ce qu'était cette violence ou de quoi procédait cette violence. Moi, j'ai lu votre texte comme ça. Enfin, j'ai lu votre texte comme quelqu'un qui s'aventure, en tout cas, dans les profondeurs...
De la psyché.
Ouais, les plus noires, les plus inquiétantes, les plus dangereuses.
Oui, il faut y aller.
Pour essayer de comprendre, quoi. Mais quand je vous dis que c'est difficile d'y aller, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi... On pourrait se dire, mais peut-être que c'est plus le terrain littéraire, on pourrait se dire que l'heure n'est pas à la compréhension, que l'heure n'est pas à l'explication de la violence, qu'il faut la combattre coûte que coûte, et que expliquer, c'est déjà faire un pas vers, je sais pas, une psychologisation de cette violence-là, masculine.
Wow, si on refuse de comprendre, ça va réparer sans arrêt. C'est comme le nazisme. Si on dit que Hitler a... mes parents disaient, Hitler, c'est un fou. Donc c'est un refus de comprendre, parce qu'il y a des raisons, il y a des raisons historiques, il y a des raisons psychologiques, etc. C'est comme la psychanalyse. Si jamais on ne fait pas le travail de comprendre, ça revient.
Et en même temps, par exemple, en plaçant tout ce roman du côté du monstrueux, ça pourrait éventuellement créer l'idée que cette violence appartient au monstrueux, donc à l'exception, donc à celui qui n'est pas humain, donc à celui qui est le freak. Or, on vit dans un monde, dans un pays où il y a un viol toutes les 3 minutes, donc c'est l'inverse de l'exception. C'est la banalité, c'est la structure même.
Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais
j'essaye de pousser jusqu'au bout la réflexion. Hein, de
ouais, vous avez raison.
Ensemble.
Vous avez raison. Mais je pense que le personnage d'Alastair, aussi monstrueux qu'il est, représente des pulsions...
très humaines, quoi.
Très humaines, ouais, un peu universelles. Simplement, si on a des pulsions, on peut s'en empêcher. Et lui ne s'en empêche pas. Parce que, et justement, je crois que c'est aussi très, très important, il est obsédé par la pureté. Et la pureté, c'est le début des ennuis. Parce que, au nom de la pureté... on peut sacrifier beaucoup de choses. Et on tue au nom de la pureté.
Le Book Club continue. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on vous fait part d'événements qui ont lien avec le livre, la lecture et l'écriture. Aujourd'hui, deux événements qui font le lien entre la littérature et le cinéma. C'est vrai qu'on n'a pas parlé... moi, j'ai beaucoup pensé à l'univers de David Lynch dans votre livre, Pierre Jourde. Deux événements donc. La 14e édition d'un festival qui s'appelle De l'écrit à l'écran, du 19 au 25 septembre. Ça se tient à Montélimar. C'est un festival qui explore toutes les formes d'écriture, cinématographique, littéraire, musicale, qui crée des passerelles entre le cinéma et l'ensemble des arts dont il se nourrit. Parmi les invités d'honneur cette année, il y a la réalisatrice et comédienne Afsia Hirsi, qui recevra le prix de l'écrit à l'écran pour son film La Petite Dernière, adapté d'un livre, celui de Fatima Das. Et le film sera d'ailleurs projeté en avant-première. Et puis l'autre festival dont on voulait vous parler, et qui explore lui aussi les liens entre le cinéma et la littérature, s'appelle cette fois Des mots à l'écran. Il se déroule au Ciné 104 de Pantin, du 26 au 28 septembre. Et là encore, des rencontres, des projections de films, des lectures en salle, notamment avec Romane Boranger, Nadia Melletti ou Mathieu Amalric. On pourra même participer dans ce festival à un atelier d'écriture de scénarios d'adaptation littéraire. Toutes les infos sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à la fin du Book Club, Pierre Jourde, on propose à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les livres à chaque fois qu'ils entendent, comme ça, l'évocation, qu'ils lisent l'évocation d'un air musical. Ils peuvent nous envoyer des photos, des pages qu'ils viennent de lire à l'adresse suivante, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram du Book Club, évidemment, tout texte, toute époque, tout, voilà, tout confondu. Et on a trouvé de la musique dans votre livre, c'est donc avec un extrait de La Marchande d'oubli que l'on se quitte. Finalement, il y a deux sortes de marchands d'idées sur l'amour. Ceux qui écoulent des stocks de sentimentalisme et ceux qui, se croyant plus malins, refourguent du cynisme, du genre « on nous la fait pas à nous ». Et dans les deux cas, c'est purement intellectuel. Pour vous, aux marches du palais, c'est une chanson intellectuelle ? L'ange pourrissant a poussé ce qui ressemblait à un ricanement, comme s'il se raclait la gorge. Vous ne trouvez pas ça évident ? Les fabrications de chansons d'amour ont des vieilles recettes, assez élaborées pour qu'on les croie sincères et pour que le client se convainque d'éprouver quelque chose. Et puis il y a les raffinés, ceux qui passent du sentimentalisme au cynisme, ils se sont débarrassés du voile de l'illusion, et ceux qui passent du cynisme au sentimentalisme, eux, ils ont été foudroyés par la vérité, bien entendu. Punch n'est pas de cette espèce, docteur. Punch déshabille les gens de leur petite fiction. Il y en a qui écrivent des romans pour faire perdurer l'illusion. Alexandre Dumas, Eugène Sue, Paul Féval, Ponson du Terrail et le père Hugo, que font-ils d'autres ? Vous voyez ma pelisse ? J'ai arraché des fragments de vérité, docteur. Cette rhapsodie composée de fragments déchirés, recousus, c'est le grand roman de Punch. Un roman de chair, docteur. Un roman qui pue. Comme la vie. That's the way to do it.
Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait le qu'elle prend. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier qu'as eu la préférence, qu'as eu la préférence.
Merci beaucoup Pierre Jourde d'avoir été avec nous pour parler de La Marchande d'oubli, parue aux éditions Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions. Garance Roubieux, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Cyril Marchand, Jeanne Aléos et Alexandre Alaï-Begovitch qui s'occupent du compte Instagram du Book Club. Vous voulez dire un truc ? Non, c'est bon, c'est fini.